Rebonjour. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'était pas comme les autres dimanches, mais je veux me réjouir qu'on ait pris ce temps de prier pour les frères et pour les sœurs. Cela nous montre que l'Église n'est pas centrée sur quelques personnes, mais sur nous tous qui sommes engagés pour la gloire de Dieu. Et je me réjouis que Dieu nous donne des hommes et des femmes pour le servir de la sorte. J'aimerais ce matin, pas faire une prédication classique, mais un rappel. Voilà quelques temps depuis que nous sommes ici, ensemble, que nous avons essayé de construire un projet d'église avec une vision, avec une raison d'être, avec des objectifs que nous essayons chaque année d'atteindre pour la gloire de notre Dieu. Et ce matin, je veux revisiter avec vous ces objectifs-là. Par la grâce de Dieu. Et je vous dirai aussi toute ma reconnaissance pour ce que chacun de vous donne financièrement. C'est un sujet, on dit sujet tabou dans le milieu évangélique traditionnel comme le nôtre. Dans d'autres milieux évangéliques, ce n'est pas un sujet tabou parce que nous sommes dans une salle, nous avons des services et tout cela nous coûte aussi de l'argent. Et c'est bien parfois d'en parler pour que chacun de nous soit reconnaissant pour ce qu'il sort de sa poche chaque mois pour donner à Dieu et pour servir l'Église. Et puis pour d'autres, les encourager peut-être à faire aussi de la même chose. Nous avons construit notre projet d'Église autour d'une thématique qui est celle de notre union d'Église, s'affermir, atteindre la maturité et se multiplier. S'affermir, atteindre la maturité et se multiplier. C'est un thème qui traverse et le chrétien individuellement, mais aussi l'Église. Un chrétien est appelé à grandir dans sa foi, c'est ça s'affermir. S'affermir, c'est marcher, s'équiper, se former pour être solide dans ce qu'on fait. C'est ça l'affermissement. Es-tu solide en tant que chrétien? Penses-tu que tu as fini d'être solide? Est-ce qu'on finit d'être solide? On ne finit pas de s'affermir, n'est-ce pas? Mais il y a un niveau auquel on arrive où on se rend compte que là maintenant, on a une stabilité qui nous permet, nous aussi, de nous multiplier, donc d'encourager d'autres, n'est-ce pas? Et c'est cet exercice que j'aimerais faire avec vous ce matin, nous encourager à regarder comment Dieu fait les choses avec nous. Nous avons eu trois objectifs, tout ça autour de la parole de Dieu. Devenir une église pleinement affermie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chrétien, c'est notre objectif, que chaque chrétien de notre église s'engage à son affermissement. Et pour cela, nous avons mis un certain nombre d'outils à la disposition, de réunions, d'encouragements. Nous souhaitons et nous prions Dieu de tout notre cœur que les couples que Dieu établit dans notre église, que les familles qui sont établies dans notre église, que ce soit des couples qui honorent Dieu, dans les valeurs qu'ils ont entre eux, dans les valeurs qu'ils diffusent dans leur famille. Et nous avons aussi, dans ce thème de l'affermissement, prié et travaillé dans le sorte que cette communauté, cette église, soit une église unie, qui honore Dieu. Vous savez, c'est pas un scoop que malheureusement, les églises évangéliques sont plus taxées pour leur capacité à se diviser, à se palabrer, que leur capacité à propager l'amour de Dieu. Et nous voulons dire non, Seigneur, ce n'est pas ça l'Église. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est des hommes et des femmes ensemble, différents, divers et variés, mais unis en Jésus-Christ et qui tiennent la barre ensemble. Notre deuxième objectif, c'est d'avoir un témoignage efficace pour Christ dans la communauté qui nous entoure, à Créteil et partout où nous vivons. D'où les cellules de maison, d'où les comités de femmes, les comités de jeunes, les comités d'hommes, parce que nous savons que nous n'habitons pas tous forcément dans la même région, enfin dans la même ville, et que si ces comités-là, le Seigneur nous aide à vraiment les affermir, chacun de nous là où il vit, rayonne à sa façon. C'est ça l'objectif des comités, c'est ça l'objectif des cellules de maison, c'est ça l'objectif du groupe de jeunes. Un groupe de jeunes, ce n'est pas juste de rassembler nos jeunes dans un club. Non, c'est de rassembler nos jeunes, bien sûr, de leur donner la parole de Dieu, de les affermir. Mais pour qu'eux aussi, ils soient fiers, ils soient dignes d'être chrétiens à l'école, à l'université, dans leur vie active. Et qu'ils puissent dire à leurs amis, bah, je t'invite à l'église. Et on a été marqué par Dylan lorsqu'il s'est baptisé. Il a invité pas mal de ses amis qui étaient là. Et ils ont entendu l'évangile, ces amis-là, n'est-ce pas? Et ça a été le cas aussi de Déborah, lorsqu'elle s'est baptisée. Et c'est ce que nous voulons, que nos jeunes soient fiers et dignes d'être chrétiens. Et qu'ils n'aient pas honte de le vivre, et même d'inviter leurs amis. C'est ça, ce témoignage efficace. Parfois, on croit que le témoignage efficace, c'est sorti dans la rue, dit « Jésus vous aime !» Ça peut être aussi ça. Mais parfois, on effraie plus les gens qu'autre chose, quand on fait ça. Oh là là, il y a encore un fou ce matin qui s'est réveillé avec Jésus dans sa tête. Même si ce n'est pas faux, même si Dieu se sert de ça, je crois que Dieu se sert de parfois ce qui est ordinaire plus que de ce qui est extraordinaire. Et puis enfin, nous voulons devenir une église missionnaire. Nous ne voulons pas rester le petit groupe d'églises de chrétiens. Nous voulons soutenir des actions missionnaires comme nous l'avons fait depuis 2 ans. Nous sommes engagés en Haïti, nous sommes engagés en Côte d'Ivoire avec la mission biblique. C'est de petits moyens. Mais nous savons que même les petits moyens, ça aide. C'est des petits temps de prière que ce groupe dont on vous a parlé tout à l'heure a depuis maintenant 1 année. Chaque jeudi, on se retrouvait chez Tina avec Gertrude et Josia nous a rejoints et on priait pour les sujets que ces missions nous envoyaient. Et notre église fait un don modeste, mais chaque année donne quelque chose pour soutenir cette mission. C'est ça une église vivante, une église qui n'est pas repliée sur elle-même. Et puis en plus, nous sommes dans une grande union d'églises avec 32 églises. Là aussi, nous sommes en mission avec ces 32 églises de notre alliance. Parce que dans notre budget, chaque année, nous dédions, même si c'est une petite somme, pour aider les églises qui ne peuvent pas payer leur pasteur. Et nous apportons aussi notre contribution pour qu'une église puisse avoir un pasteur. Et nous sommes en mission avec ces églises-là, bien-aimés. Et c'est ce que nous faisons ici depuis quelques années. Devenir une église pleinement affermie. Philippiens chapitre 1, versets 1 à 7. Quelques textes bibliques pour que ce rappel de notre vision s'incarne dans la parole de Dieu. Philippiens 1, versets 1 à 7. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques, aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul est fier des chrétiens de l'église de Philippe. Il dit, depuis le premier jour, vous avez entendu dire que je suis engagé pour l'évangélisation et pour l'affermissement des églises. Vous me soutenez depuis le premier jour. Non seulement vous priez pour moi, mais quand j'ai besoin de finances, vous envoyez des finances. Quand j'ai besoin de ne pas être seul, vous envoyez même des délégués pour être avec moi, des hommes pour être avec moi, pour prier avec moi, pour me soutenir. Il dit, j'apprécie. Et si l'apôtre le dit, c'est que Dieu apprécie aussi. Et il dit qu'il est persuadé que ce que Dieu a commencé avec cette église de Philippe, Dieu le rendra parfait. Et notre prière, c'est que cet engagement que nous avons d'être une église vivante, une église qui s'affermit, une église qui travaille pour la gloire de Dieu, nous voulons garder ce feu de Dieu en nous. Que cette parole que l'apôtre Paul libère pour l'église de Philippe, que nous prenons aussi la prendre pour l'église de Créteil. Je suis persuadé que celui qui a commencé en église de Créteil cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. C'est Dieu que nous invoquons pour qu'il nous donne de devenir, non, de continuer à une église, à être une église pleinement affermie. Nous voulons être une église affermie. Vous savez, quand on n'est pas affermi, l'apôtre Paul dit, si on n'est pas affermi, on est ballotté par tout vent de doctrine. Une église qui n'est pas affermie, c'est une église qui a beaucoup de difficultés. Doctrinaux d'abord. doctrinal, pardon, et ensuite relationnel. Nous rendrons gloire à Dieu, parce qu'au moins ce travail, Dieu a commencé à le faire. Il continue de le faire. Dans Colossiens chapitre 1, versets 28 à 29, l'apôtre Paul dit, celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. L'apôtre Paul dit à quoi il travaille dans l'église de Colosse. Il dit qu'il travaille à ce que chaque homme de cette église, chaque femme de cette église, devienne un homme et une femme parfaite en Christ. Il dit, c'est à ça que je travaille. C'est à ça que je combats. Pour que chacun et chacune, chaque chrétien, chaque chrétienne de Colosse soit un chrétien et une chrétienne à faire. Mais, bien-aimés, les comités, les cellules de maison, toutes ces équipes dont nous avons parlé, pour lesquelles nous avons prié, l'objectif commun, c'est que chacun de nous travaille pour que chacune et chacune devienne, sinon continue d'être, une chrétienne, un chrétien affermi. Amen. Nous désirons aussi des foyers établis. Éphésiens 5, verset 33, l'apôtre Paul dit, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari, que les foyers chrétiens soient des foyers où monsieur et madame sont pétris de l'amour de Dieu. » Cette société a perdu le repère de la famille. Si l'Église perd aussi le repère, qui va être le sel? Qui va être la lumière? Qui va être le sel? Qui va être la lumière? Mon couple n'est pas juste un défi pour moi et Caroline. Mon couple est un défi pour Jésus-Christ et pour le témoignage de Dieu dans le monde. Ma famille n'est pas juste un témoignage pour moi tout seul. Ma famille est un témoignage pour Jésus-Christ. Je l'ai toujours dit, certes, avec nos limites, avec nos défauts, mais bien plus, avec les caractères que Dieu continue de faire produire en nous, que les gens voient. Pareil pour les enfants. Toujours Éphésiens 6, versets 1 à 4. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. « Enfin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Verset 4. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Le thème « instruisez » ici, le thème « corriger » n'est pas juste un thème de punition, non. Le thème « corriger », c'est le thème de l'éducation. Corriger, c'est redresser ce qui est tordu. Or, nous savons que le péché nous a tous tordus et que nous avons besoin d'être redressés par Dieu. Et c'est pas Dieu, il ne nous punit pas, il nous éduque, il nous redresse. Bien-aimés, des foyers ancrés en Dieu, c'est notre cri de cœur. Dans une période difficile pour les familles, dans une période difficile pour les couples, dans une période difficile pour les relations parents-enfants, nous voulons dans cette église crier à Dieu et mettre tout en œuvre pour que nos couples, nos familles, nos relations parents-enfants soient des relations bénies de Dieu. Que Dieu nous aide. Établis des vies comme une vie communautaire qui honore Dieu. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13, il dit « C'est pourquoi vous qui autrefois étiez païens dans la chair, qui étiez appelés incirconcis par les circoncis, qui le sont selon la chair, vous qui étiez loin de Dieu, privés de Christ. » Verset 19, « Vous êtes maintenant non plus des étrangers, mais vous êtes de la famille de Dieu. » Bien-aimés, l'Église, ce n'est pas une association. C'est vrai, la société nous demande d'être déclarés en association. Mais l'Église, c'est d'abord la famille de Dieu. Nous sommes famille de Dieu. Nous ne devons pas prendre le modèle de la famille sur notre monde, parce que notre monde a quelque peu détruit ce modèle. Si nous cherchons un modèle de la famille, c'est dans la Bible que nous devons chercher, selon Dieu. Et la famille, c'est d'abord l'amour les uns pour les autres. Jésus dit le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras Dieu, ton Père, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Notre défi ici, chaque année, c'est que cette église soit un vivier où on s'aime, où on développe des relations saines, où on apprend à s'apprécier, où on apprend à se... Oh, que Dieu nous aide. Et je suis reconnaissant à Dieu parce que nous sommes sur la bonne voie dans cette église. Et je dis toujours, quand il y a des qualités acquises, Notre défi maintenant, c'est de les garder et d'être performants dans ces qualités-là. De les garder et de performer. Ne soyons pas satisfaits. Voilà, c'est plus simple. Ne soyons pas satisfaits de là où nous sommes arrivés. Continuons de dire, Seigneur, on veut être excellent. Je prends parfois l'anecdote des repas fraternels. Je dis parfois, à force de nous connaître au repas fraternel, on continue de s'asseoir toujours à côté de ceux qu'on aime. Et j'ai vu que depuis 4 ans, les choses ne sont pas pareilles ici. Je vois comment à chaque repas fraternel, les cercles bougent un peu. J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça. On s'approche de l'autre, on apprend à le connaître, on apprend à savoir qui il est. Vous savez, c'est quand même difficile d'être dans une église pendant 5 ans et de ne pas connaître le nom du frère. Waouh! C'est énorme. C'est énorme. On ne peut pas faire ça. Même dans les associations séculières, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et même si les gens ne se connaissent pas par leur nom, ils commencent à se remarquer et à faire une sorte, on va dire, de relation. J'ai été 3 ans dans le club, l'ancien club de mes garçons, et j'ai vu comment nous, parents de footballeurs, on a appris à se connaître. Parce que quand on faisait du covoiturage de nos enfants, et parfois, on passe du temps dans l'église et on ne se connaît pas. Jésus. Merci Seigneur, parce qu'ici, nous sommes sur la bonne voie. Gardons cette qualité-là, cultivons-la, avançons pour la gloire de notre Dieu, de sorte que les hommes et les femmes que Dieu nous envoie disent, « Waouh, ici, on a été bien accueillis. » C'est un début pour ouvrir les cœurs des hommes et des femmes à Dieu. Vous savez, et j'en suis convaincu, évangéliser, ce n'est pas toujours courir, donner des brochures dans les immeubles que les gens ne vont même pas lire. Si Dieu nous envoie une seule personne et qu'elle est bien accueillie, et on a ce témoignage ici, n'est-ce pas? Un de ceux qui va se baptiser ce mois-ci, Jonathan a témoigné de ça. C'est sa mère Agnès qui l'a invité à venir dans cette église. Il est venu une fois et après il est venu de lui-même sans sa mère. Et il témoigne qu'il a été accueilli ici. Il a été accueilli et par les adultes, les aînés, et par les jeunes de son âge. Gardez cette qualité, bien-aimé. Demandez à Dieu de nous rendre toujours cette église aimante. Amen. Nous voulons avoir un témoignage efficace dans la ville. C'est important. Je prends du temps aujourd'hui, désolé. On va peut-être déborder, peut-être pas. Mais c'est important que dans un jour comme ça, nous puissions nous rappeler ce que nous sommes. Nous sommes une église vivante. Nous voulons avoir un témoignage efficace. On ne veut pas être juste la petite église qui est au 17 rue Emmanuel Chabrier. Ça ne sert à rien d'être ça. On veut être la petite église 17 rue Emmanuel Chabrier, mais qui fait l'œuvre de Dieu. Amen. Qui fait l'œuvre de Dieu. Qui est cette petite lumière qui lui dans ce petit endroit, mais qui lui quand même. Qui brille quand même. Et qui permet à Dieu d'attirer des hommes et des femmes, année après année. Si je vous montre on a une petite question comme ça, on met toutes les cartes de visite que nos sœurs de l'accueil recueillent pour toutes les nouvelles personnes qui passent, mais c'est incroyable. Avant le Covid, chaque mois, on avait au moins une visite de quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu ou qui ne connaissait pas l'Église. Et qui est venue d'elle-même. Au moins une visite, pas moi. C'est énorme. Et je disais au conseil, si chaque visite, Dieu nous donne de nous investir pour chaque personne qui vient ici, on est en train de travailler pour le royaume de Dieu, bien-aimé. Colossiens 4, versets 2 à 6. Que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message comme il est de mon devoir de le faire. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. En mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous, que votre parole soit toujours empreinte de grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Il parle à l'église de Colosse. Il dit, vous devez, Vive ce que vous êtes. Vous êtes une église, vous êtes des chrétiens. Vivez en tant que chrétien, vous allez voir. Dieu va créer des occasions favorables pour vous. Et quand il les créera, profitez-en pour parler de ce que vous êtes à votre collègue, à votre voisin, à votre ami. Et je pense que c'est Eric Zali qui le disait, je ne sais pas si c'est dimanche dernier ou il y a deux dimanches. Quand son collègue lui a demandé, ben, ce week-end, qui fait quoi? Il dit, je ne sais pas tout ce que je vais faire, mais ce que je sais, c'est que dimanche matin, j'irai à l'église. Je sais que dimanche matin, j'irai à l'église. Que Dieu nous aide. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiennes. Soyons ce que nous sommes. J'ai été pendant quelques années un peu mal formé par rapport à l'évangélisation. Je tenais coûte que coûte quand je rencontre quelqu'un, quand j'ai un nouveau voisin, lui dit « Jésus t'aime ». Ça me stressait tellement que je faisais finalement rien. Tellement j'ai guetté une occasion qu'il allait me donner pour que Dieu, est-ce que tu sais que Dieu existe? Mais ces occasions ne viennent même pas. Et j'étais culpabilisé, triste. Et en plus, pasteur que je suis, je dis, oulala, t'es un pied de pasteur, t'arrives même pas à annoncer l'évangile à quelqu'un. Waouh! C'est stressant de vivre avec ça. Et puis Dieu m'a dit, mais Serge, tu sais, vis ce que tu es. Tu es d'abord Serge Oulay, t'es un chrétien. Vis en tant que chrétien. Je ne t'ai pas dit de vivre dans ce bâtiment comme un pasteur. Vis comme un chrétien. Tu es le chrétien que tu dois vivre. Vis comme un être humain, social, qui a une vie sociale avec les gens de son entourage, mais avec des valeurs chrétiennes. Et Dieu donnera des occasions. Et Dieu donnera des occasions. Et c'est ce qui s'est passé avec l'un de mes voisins. J'ai commencé à faire ça, tout simplement. Et puis, au fil des relations, la question est venue, mais qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie? Waouh! Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, tu sais, je suis pasteur. Ah ouais, t'es pasteur. Et c'est parti comme ça. Et depuis, on a une bonne relation. Je lui ai promis un café, mais le Covid est venu et pour l'instant, on n'a pas encore pris ce café à la maison. Mais je veux dire, et vous le faites déjà, vous tous, faisons-le encore davantage. Soyons des hommes et des femmes chrétiennes là où nous sommes, vivons notre foi et soyons là où Dieu veut que nous soyons. Cela exige beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Il y a du temps à mettre dedans. On parle toujours de ces témoignages des missionnaires qui étaient des fous pour Dieu. Mais il y a un témoignage qui m'a frappé, c'est un missionnaire qui n'était pas un fou pour Dieu. Dans le sens où il ne criait pas partout « Jésus t'aime », mais qui avait une relation avec tous ceux de son entourage, avec son boulanger, avec son charcutier, avec les gens du quartier. Voilà, il tissait cette relation-là. Et au bout du bout de la relation, il y avait toujours une bonne occasion pour dire « Tu sais, je suis comme je suis parce que je connais quelqu'un. » Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et puis enfin, bien-aimés, nous voulons devenir une église en mission. La mission, ce n'est pas forcément d'aller au loin. Philippiens 1, 3 à 8, et il dit, « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous, en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu, car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous, son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Vous avez remarqué, ça fait deux fois que je parle de ce texte, n'est-ce pas? Mais il dit quoi? Il dit, le bon témoignage que vous avez, se répand, même si vous ne le savez pas. Parfois, on a le syndrome de la petite église, mais ça n'existe pas une petite église. L'église est l'église de Dieu, peu importe sa taille. Peu importe sa taille. L'église est l'église de Dieu. C'est lui qui nous met ici. Parfois, je me dis, mais Seigneur, regarde, on est là, mais nos frères de MLK sont en train de construire un gros bâtiment. Ça sert à quoi d'être là? Et Seigneur dit, Serge, tu sais, c'est moi qui ai décidé que vous soyez là. Faites ce que vous avez à faire. Et moi, je ferai ce que j'ai à faire. Je dis, waouh, Seigneur, tu as raison. Finalement, c'est toi qui dis la vérité. Si tu nous as placés ici, c'est toi qui sais pourquoi. On n'a pas à avoir le syndrome de la petite église, on a juste à dire, nous sommes l'église de Dieu, si nous sommes là, c'est pour une bonne raison. Dieu veut que nous soyons là pour accomplir ces missions dont j'ai parlé. Et nous voulons nous engager à ça, avec notre force et nos dons. Amen, bien-aimés. Je vais terminer avec une note peut-être un peu compliquée. En préparant cette prédication, mais je veux le faire quand même. Je vais vous présenter un tableau. C'est un tableau qui montre ce dont nous avons besoin pour financer l'œuvre de Dieu. Je vais faire mieux, je vais faire focus. Si j'y arrive. Voilà. Vous voyez ce tableau? Ce tableau en bleu, c'est tout ce que vous donnez chaque mois pour servir Dieu dans cette église. L'autre colonne, vous ne la voyez pas à cause du vidéoprojecteur, mais ce n'est pas grave, ça c'est l'année 2019. C'est cette année 2020. En faisant ce point, je me suis dit, Seigneur, waouh, c'est incroyable. Regarde, cette église, pour la même période l'année dernière, on avait, parce que vous savez, chaque année, on estime combien il nous faut pour servir Dieu avec tous les ministères qui sont dans notre église. Et ça nous coûte par mois, l'année dernière, ça nous coûtait par mois 4042,50 euros. C'est ce que ça nous coûtait par mois. C'est ce que notre mission nous coûte par mois, l'année dernière. Et de janvier à août, on n'a pas atteint chaque mois l'objectif, et même on avait un déficit de moins 8834,90 euros. Ça veut dire qu'on a fait ce qu'on avait à faire avec ce que chacun de nous a mis ensemble, mais on n'a pas atteint l'objectif. Mais Dieu a béni quand même. C'est ça qui est incroyable avec Dieu. C'est-à-dire qu'il continue quand même de bénir. Hein? Parce qu'il sait que chacun de nous fait l'effort, que chacun de nous ne donne pas son superflu, que ce que nous donnons, c'est déjà quelque chose que Dieu apprécie. Donc il ne s'agit pas de nous appauvrir comme dans certains milieux où on fait, voilà, et les gens s'appauvrissent et finalement, non. On veut que chacun puisse donner avec la joie de son cœur et qu'il puisse donner parce qu'il y a des objectifs à atteindre. Pourquoi j'ai dit waouh? Parce que regardez ce tableau. À la même période de cette année, le déficit, il est moindre que l'année dernière. L'année dernière, c'était moins 8 000. Vous voyez le total là? Et cette année, à la même période, c'est moins 6 000. Malgré le Covid, malgré qu'il y a eu 3 mois... où on n'a pas eu d'église véritablement, on a donné plus que l'année dernière. Seigneur, c'est incroyable. On a donné plus que l'année dernière. On a donné à peu près 1900, sinon 2000 tourons que l'année dernière. Ça veut dire que les chrétiens qui sont dans cette église sont des chrétiens engagés pour le Dieu. Et je veux que Dieu vous bénisse. On se demandait, Seigneur, comment on allait continuer de financer ce ministère. Mais les frères et sœurs, après le premier mois de mars et d'avril, ont recommencé à soutenir leur église. Que Dieu nous donne cette force de continuer à soutenir notre église. Vous savez, les missions qui sont parties dans le monde, elles n'auraient pas pu partir dans le monde s'il n'y avait pas de chrétiens qui donnaient de l'argent. J'ai été marqué par une église aux États-Unis, l'école de dimanche de cette église. Pendant une année, les enfants ont pris le défi, encouragés par leur monitrice, de mettre leur argent de goûter de côté pour soutenir une autre école de dimanche dans un pays du Sud. Et la somme qu'ils ont pu réunir pendant une année a été tellement conséquente que cette école de dimanche a pu acheter un mini-car pour les déplacements des enfants. Incroyable! Incroyable! Bien-aimés, nous sommes ici aujourd'hui parce que il y a 30, 40 ans, 50 ans en arrière, des églises américaines ont soutenu des missionnaires qui sont venus implanter les églises ici à Créteil. Et nous voulons faire pareil. Nous voulons continuer de soutenir pour que l'église continue d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Chacun selon la force financière que Dieu lui donne. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. C'est vrai que j'ai fini avec une note financière, mais l'idée ici, c'était de vous bénir déjà pour tous les efforts financiers que vous faites. Continuez de les faire pour la gloire de votre Dieu. En tant que famille pastorale, je suis reconnaissant. Peut-être vous ne le savez pas pour certains, peut-être d'autres le savent. Dans notre union d'église, nous qui sommes pasteurs, c'est un engagement difficile que nous avons pris. Parce que notre union d'église dit... On veut que le pasteur soit 100% disponible pour l'église, on ne veut pas qu'il ait un travail à côté. Donc, malgré tous nos diplômes séculiers, à un moment donné, on a tout lâché. Et au début, on vivait que par la foi. Pendant mes 2 premières années de ministère dans l'AEI, je ne savais même pas chaque mois combien j'allais recevoir. puisqu'il n'y avait pas d'argent. J'étais sur une implantation d'église, et puis on avait lancé un ministère jeunesse, Jeunesse Maranatha, mais il n'y avait pas d'argent. J'avais une femme et deux enfants. Ma femme travaillait, gloire à Dieu, heureusement. Mais on était convaincus que c'est ce qu'il fallait faire. Et puis on s'est engagé avec le soutien de d'autres églises. Et puis Dieu a béni. Aujourd'hui, il y a une église à Corbeil. Il y a des frères et des sœurs qui sont dans cette église. Et bientôt, ils vont avoir un stagiaire. Mais la Bible dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il ne peut pas germer. Quelquefois, Dieu envoie certains pour être des pionniers dans des situations difficiles, pour que l'évangile puisse avancer. Et c'est pour ça que je suis reconnaissant, parce qu'ici, avec ce que vous donnez, ça nous permet d'avoir un soutien pastoral qui me permet de travailler comme je peux le faire avec vous. Et je veux bénir Dieu pour chacun de vous, pour ce que vous donnez, mois après mois, dans cette église. Nous avons deux défis cette année. Nous avons le défi de soutenir, et je vais inviter, je vous ai dit, j'allais prendre un peu de temps, je vais inviter Teddy et Alexandra à me rejoindre. Teddy et Alexandra, pour ceux qui le savent, sont ici depuis maintenant, c'est la quatrième année qu'ils sont en métropole. Teddy avait un travail, Alexandra aussi. Ils ont trois enfants, et puis à un moment donné, Dieu leur a dit, c'est bon, lâchez tout. Teddy va s'engager dans le ministère. Alexandra, tu es attaché à ta famille, et c'est bien, tu es engagé avec eux, c'est bien, mais tu vas lâcher tout ça. Et ce n'était pas simple pour Alexandra de lâcher tout ça. Mais elle a dit, Seigneur, c'est toi qui parles, je t'obéis. Elle a suivi, après des mois de prière, son mari, et ils sont là depuis c'est la quatrième année, ils sont en formation là, à l'Institut de nos gens. Dieu a fait grâce, Alexandra a pu trouver un travail, mais difficilement. Et Teddy, soutenu un peu par son église de Guadeloupe, et parce qu'il a travaillé aussi pendant quelques années, il a des allocations. Mais vous savez ce que c'est les allocations. Il a une famille, ils ont trois enfants. Mais ce n'est pas des gens qui se plaignent. Et c'est ça qui est incroyable. Quand Dieu nous appelle, Moi, celui qui m'a présenté pour que les frères aient pitié de moi et qu'ils me soutiennent, j'étais pas content de la façon dont il m'a présenté. Hein. J'ai dit, mais Jean-Luc, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, il faut que les frères sachent ce que tu vis en tant que couple pastoral. J'ai dit, ok. Donc, Teddy va faire son stage quatrième année. C'est un stage pastoral. C'est la quatrième année où il fait un stage pastoral. Et Alexandra et lui ont prié. Ils ont été convaincus de le faire ici avec nous. Et nous sommes reconnaissants à Dieu parce que ils reçoivent de nous, mais on reçoit aussi de ce coup. Et nous voulons cette année nous engager avec eux parce que le stage pastoral, c'est un engagement à accompagner un couple, à les encadrer. Et nous, le conseil, on va montrer à Teddy toute l'ampleur du ministère pastoral. Ce sera notre responsabilité dans cette convention de stage. Et Alexandra aussi, elle comprendra ce qu'elle sait déjà, mais elle le comprendra peut-être encore à une dimension un peu plus. Et ils n'ont pas forcément demandé un soutien financier à l'Église. Ils se battent comme des gens responsables dans la vie. Et je bénis Dieu pour Alexandra et Teddy. Mais on ne peut pas être une Église responsable sans soutenir un ministère. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire, ils sont gratuits. Ça n'existe pas, des serviteurs de Dieu gratuits. En gros, je vais utiliser un terme qui n'est pas bien. Mais le stade de Teddy, ça va nous coûter 401 euros par mois. Regardez, je vous ai montré le tableau. On n'arrive même pas à atteindre ce qu'on a besoin d'atteindre. Il nous faut encore sortir 401 euros. Mais j'ai la foi qu'avec nous, pas seulement nous, mais déjà nous faisons les efforts que nous avons à faire. Nous avons engagé une démarche vis-à-vis de notre union d'église aussi, de l'AEI, pour qu'elle nous soutienne aussi dans ce projet. Mais nous voulons accompagner dignement ce serviteur de Dieu. Donc c'est le défi qui est devant nous. Okay? D'être là autour avec eux, les bénissant pour leur ministère, ce n'est pas des mendiants. Et je voudrais que ce que je dis, que nous ne le prenions pas comme des gens qui m'ont dit. Quelquefois, des frères m'ont donné cette impression que j'étais un mendiant et ça m'a fait mal. Et ça m'a fait mal parce que j'ai dit, Seigneur, c'est pour ça que je voulais travailler pour servir. Et tu m'as dit, arrête de travailler. Et tu vois ce que les gens me disent et ça me fait mal parce que je peux travailler. Et j'en ai fait la démonstration pendant mes 4 années à la faculté de théologie. J'avais un travail à côté. Je travaillais dans un hôtel. Je travaillais comme réceptionniste et agent de sécurité. Je travaillais de 8h du soir à 6h du matin. Et à 8h20, j'avais cours. J'avais cours de 8h20 à 16h à la fac. Et les gens disaient, mais comment tu fais? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Donc, j'aimerais que nous puissions considérer ces serviteurs comme des gens qui font un sacrifice pour la gloire de Dieu. Et que si on dit que si chacun de nous donne, en plus de ce qu'il donne, 10 euros de plus, ah, c'est quelque chose. Pour bénir Dieu, bien-aimé. Pour bénir Dieu. Amen. Le deuxième qui, lui, va nous coûter 0 euros, c'est le frère Mathieu Bartel, qui est tout au fond avec sa femme Isabelle, qui sont arrivés cette année. Vous voulez vous tenir debout de là où vous êtes? Sinon, vous pouvez vous avancer aussi avec moi. Eux aussi, ils ont tout lâché depuis la Martinique. Venez par ici. Ils sont arrivés il y a quelques années en métropole. Voilà, c'est ça, les Antilles. Les Antilles envoient des missionnaires. Voilà. Montez, montez, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Après aujourd'hui, il y aura un autre jour, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, ils sont là depuis quelques années. Ils étaient dans le sud, dans la région du Gard, à Alès. Ils avaient une vie séculière normale. Et puis, il y a quelques temps, Dieu a dit, c'est bon, Mathieu, tu vas me servir. Tu vas tout lâcher et tu vas aller en formation à l'Institut biblique. Et Isabelle va te suivre aussi, Emiline aussi. Pour l'avoir fait, je peux vous dire que c'est des combats, hein, avant de lâcher. Hein. Parce que quand tu vois l'enjeu, tu es fier parce que c'est Dieu qui t'appelle, mais quand tu vois les dégâts que ça va faire dans ton quotidien, tu dis, waouh, est-ce que je vais y arriver? Donc, ils ont pris cet engagement, ils ont fait ce pas, donc ils sont arrivés cette année, ils sont à Nogent. Donc, ils sont logés à l'Institut avec leur petite fille Emiline qui est de l'autre côté. Et lui, il va faire un stage hebdomadaire. Ce stage ne coûte que le temps du pasteur avec lui, voilà, pour l'encourager, pour l'encadrer. Et comme on a lancé un ministère de couple, ils vont nous aider à développer ce ministère pendant ce temps de stage et puis dans bien d'autres choses. J'avais souhaité vous les présenter ce matin pour que vous sachiez ce que je disais tout à l'heure est vrai. Cette église est une église qui a une lumière. Ouais, deux serviteurs de Dieu ici, dans cette petite église. Waouh! Comment tu fais ça, Seigneur? Parce que Dieu sait que vous avez le cœur pour l'œuvre et qu'il peut vous confier ses serviteurs. Il sait qu'il peut compter sur vous. Il peut vous confier ses serviteurs. J'aimerais que nous nous tenions debout ensemble. Et j'aimerais inviter deux personnes. J'aimerais inviter Claude Dubal et ensuite notre frère Samiba a prié l'un après l'autre, a prié pour ces deux couples. Nous prions avec vous deux.